Hémorragie dans le dans la main.
Voilà.
Et qu'est-ce que tu penses de mes corps-pieds?
Ça y est, on est branché.
Non, sur YouTube, je te peins.
Ben pourtant, ça y est, c'est lancé.
Ah, attends, ça arrive.
C'est lancé.
Voilà, c'est bien. Allez, je ferme YouTube. Allez, vas-y.
Tov. Yofi.
Super. Bon, j'espère que c'est la dernière fois qu'on fait un zoom.
Ben, on espère. Il paraît que vous avez eu peur de la neige.
Ouais,
ils me font rigoler. La neige, le mauvais temps, il y en a qui viennent en voiture. Ça glisse.
Oh.
Les skis.
Voilà, au moins les skis. Au moins. Tov, alors les amis, c'est parti. On va commencer tout de suite par une fameuse histoire qui m'est arrivée il y a de cela pile poil 14 ans et 2 jours. Donc il y a 14 ans et 2 jours, c'est la veille de mon mariage.
Oh là là.
Et à ce moment-là, eh bien, je suis dans la dernière ligne droite, si on veut, dernière rencontre avec le Rav Cherki avant de passer sous la roupa. Et donc, on discute de choses et d'autres. Et là, il me dit, sache que demain, comme c'était mon oncle qui devait faire le mariage, il m'a dit, sache que demain, eh bien, ton oncle va faire un Dvar Torah. Parce que là, j'ai dit, ok. Et sache qu'il va dire la phrase, parce que je me suis marié donc Parashat Terouma, et donc il a dit, il va dire demain, et comme on dit nos sages, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, betocho lo ne'emar ela betocham. C'est-à-dire que, comme ont dit nos sages, il y a marqué dans le texte, ils me feront un mikdash et je résiderai en eux, pas en lui, mais en eux. Et je lui ai dit, ok, très bien, et alors? Et il m'a répondu, bah, le problème, c'est que nos sages n'ont jamais dit ça. C'est-à-dire que tout le monde dit, c'est marqué dans nos sages, mais nulle part dans le Talmud de Jérusalem, dans le Talmud de Babylone, dans la Tosefta, dans la Mechilta, c'est-à-dire dans aucun des ouvrages, dans le Midrash, aucun des ouvrages de Talmud, eh bien, ils ont dit ça. On retrouve cette phrase beaucoup plus tard, mais c'est pas marqué dans ce qu'on appelle Chazal. Eh ben, tu vois pas que ça n'a pas manqué. 2 jours plus tard, sous la choupa, mon oncle fait un Dvar Torah. Et il dit, et comme on dit nos sages dans le Talmud, Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham, betocho lo ne'emar, ela betocham. Et à ce moment-là, évidemment, je regarde le Rav Cherki qui me dit. Alors, on est parashat Terouma, d'ailleurs, entre parenthèses, le soir qui a précédé mon mariage, c'était un mercredi. Je me suis marié un jeudi. Et donc, le mercredi soir, à cette époque-là, le Rav Cherki donnait un cours dans sa synagogue tous les mercredis soirs. Et donc, j'y ai été. Et donc, je suis avec tout le monde, on attend le Rav arriver. Et dès que le Rav arrive, tout le monde se lève, tout le monde se rassoit. Le Rav s'assoit et il ne commence pas le cours. Pendant 1 à 2 minutes, il y a un blanc. Alors, personne ne comprend ce qui se passe. Et là, le Rav dit, il y a quelqu'un ici qui ne devrait pas être dans cette salle. Tant qu'il est là, je ne commence pas le cours. Alors, tout le monde se regarde, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Qui est l'intrus? Et donc, au bout d'une minute, il me regarde et il me dit, Ethan, tu vas te marier demain, va dormir. Je croyais qu'il rigolait. Mais non. Il a dit, je ne commencerai pas le cours tant que tu es ici. Tu vas dormir. Bon, j'ai été dormir. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, Parashat Terouma, c'est la paracha du Mishkan. La paracha de la création de ce qui aurait dû être l'idéal de la création. On aurait dû fermer la Torah après ça. Mais le problème, c'est que cet événement qui aurait dû être l'événement qui vient clore toute l'histoire, eh bien, n'a pas eu lieu tel qu'il aurait dû avoir lieu. Tout d'abord, on doit se poser la question, quand est-ce que ça se passe? Parachat Terouma et Parachat Tetzavé la semaine prochaine, faut se poser la question, quand est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se passe avant le Vaudor ou est-ce que ça se passe après le Vaudor? Alors, nous allons avoir évidemment une marloquette, bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Une marloquette, est-ce que ça se passe avant Mahamad Sinai, avant le Vaudor ou après le Vaudor? Rashi va aller dans le sens de dire que ça se passe après le Vaudor, chronologiquement. Que en vérité, c'est la résultante du Vaudor. Le Vaudor montrant qu'on est incapable de s'attacher à Dieu de manière purement abstraite, alors, eh bien, Dieu nous dit, bon, bah, alors, on va leur faire un temple. C'est dans cette optique que va aller, par exemple, le philosophe Abraham Yoshua Heschel, qui, lui, avait une philosophie de l'abstrait très importante. C'est-à-dire que pour lui, le lien avec Dieu ne passait que par le temps et ne passait pas du tout par l'endroit. Pour lui, on était les bâtisseurs du temps et non pas les bâtisseurs de temples. Et donc, il savait pourtant bien qu'il y avait eu le temple. Pour lui, le temple était un compromis avec l'idolâtrie. Et quand on suit l'avis de Rashi qui dit que Parashat Terouma Tetzavé, l'ordre de construire le Mishkan, vient après le Vaudor, eh bien, ça semble corroborer cet idéal de dire, ben voilà, on a fauté avec le Vaudor, on a montré qu'on n'était pas capable de s'attacher à Dieu simplement dans l'abstrait, donc compromis avec l'idolâtrie, Mishkan. Le problème, c'est qu'on l'a déjà évoqué cela. Il y a marqué bien avant le Vaudor, dans la Shira Tayam, Teviyemo vetitaemo, Be'ar nachalatecha machon neshivtecha pa'alta Adonai, Mikdash Adonai konenu yadecha. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de Mikdash qui est de loin précédente de celle du Vaudor. Donc le Mikdash, c'est a priori, ce n'est pas a posteriori. Oui, mais le Mikdash, il n'est pas à sa place. Eh oui, car lorsqu'on parle de Beth Amikdash, quand on reprend le verset que j'ai cité dans la Shirat Hayam, on nous dit, je répète le verset, Teviemo vetitaemo behar nachalatecha. On doit aller dans la montagne de ton héritage, pas dans le mont Sinaï, mais bel et bien Behar Amoria. Ce qui veut dire que le Beth Amikdash, évidemment, comme il sera construit plus tard avec Shlomo, il doit être construit à Jérusalem, sur le mont du Temple. Donc ce Mishkan n'est pas du tout à sa place. Ashela Lama. Lama. Pourquoi Dieu n'a pas attendu qu'on arrive à Jérusalem pour nous donner le Mishkan, le Beth Amikdash? Alors Chazal va nous dire quelque chose d'intéressant qui est repris par Rashi en nous disant que Ahava mekalkelet et Ashura. C'est-à-dire que Dieu, il était tellement amoureux qu'il a fait les choses par empressement. Il voulait tellement avoir une maison avec nous qu'il a fait les choses un petit peu à la va-vite. Résultat des courses, Mishkan dans le désert et non pas Mikdash à Jérusalem. Mais on parle de Dieu là. C'est-à-dire que je veux bien qu'on donne des notions de personnification pour qu'on comprenne. Mais il faut quand même que ça ait du sens. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu, il veut faire les choses trop vite? Eh bien, en fait, le Mishkan, à aucun moment, n'était censé être l'idéal du dévoilement. Pour une raison très simple. Le Mishkan est portatif. Dans notre paracha, nous voyons comment on doit construire le Mishkan et on voit quelles sont les structures nomades du Mishkan. Le Mishkan est portatif. Si le Mishkan est portatif, c'est qu'il n'y a pas de stabilité du dévoilement. C'est-à-dire que pour l'instant, nous sommes dans un dévoilement... Pardon ?
Qui sont ouverts. Tout le monde ferme les micros. Il y a des afraotes quand tu parles.
Ah ah. Eh bien, fermez donc vos micros. C'est bon ? Yofi. Donc, je disais, le Mishkan, est un dévoilement en devenir. C'est un dévoilement qui n'est pas stable, c'est un dévoilement qui avance, qui est là, qui nous montre que ce qui est en train de se jouer ici n'est absolument pas la finalité, mais c'est une préparation. Le Mishkan, c'est s'habituer petit à petit au Beit HaMikdash. Et donc, c'est pas que Ahava Mekelkelet et Ashura, du style Dieu, il était trop pressé, il a fait une erreur. Pas du tout. Et justement, pour faire monter la, si vous voulez dire, si je voulais dire comme ça, je dirais que tu ne peux pas arriver au Beit HaMikdash sans préparation. Il faut une préparation. Cette préparation, elle va durer à peu près 400 ans. C'est la préparation qui s'appelle Mishkan. Un dévoilement qui va être d'abord complètement portatif, non stable, d'endroit en endroit. Ensuite, on va se poser pendant un temps à Shiloh pour nous préparer à la stabilité du dévoilement au Beit HaMikdash. C'est un petit peu comme ce qu'on fait dans la Tfila. Dans la Tfila, vous savez que la seule chose qui s'appelle Tfila, Mamash, dans le Sidour, c'est la Amida. La Shmoneh Esrei, ou alors la Amida de Shabbat. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas la Amida, c'est le Be'emet Tfila. C'est quoi? C'est la préparation vers la Tfila. Tu arrives au top à la Tfila et ensuite tu redescends pour ne pas te faire un claquage. C'est-à-dire que tout ce qui est psouké des Zimra et ensuite les brachot du schéma, c'est pour monter, s'échauffer et être prêt à la Tfila. Et une fois qu'on a terminé la Tfila, alors, Tachanun, Ashrei, c'est aussi pour redescendre et ne pas être complètement chamboulé par la fin de la Tfila. Donc, le Beit HaMikdash, c'est pareil. Tu ne peux pas y arriver comme ça, pouf. Il fallait une préparation pour pouvoir arriver au Beit HaMikdash. Et donc, eh bien, notre préparation, elle est sous la forme du Mishkan. Mishkan, il a une dimension idéale et une dimension de réalité. Et ce n'est pas la même chose. Parce que quand on prend le verset de notre paracha, le premier verset de la paracha, qui nous dit « Vaïdaber Hashem et Moshe » Taber el bene Israël veikrouli teruma met kolish asher devenu libo tikrou et terumati. Et là, j'aimerais qu'on comprenne deux secondes l'hébreu. On va faire de l'ulpan. Taber el bene Israël va matalem veikrouli teruma met kolish asher devenu libo. Que veut dire le mot? Veikrouli. Et ils vont prendre pour moi une terouma. J'entends bien. De qui ils doivent prendre? De qui on doit prendre? D'abord, comprenez-moi bien. Ma phrase, c'est pas, je pose pas une question nudnique. C'est une vraie question. Si le texte me dit que Dieu dit à Moshe d'aller dire au Béné Israël de prendre une trouma met kolish, ça veut dire que qui doit prendre? Les Bnei Israël. Mais de qui ils doivent prendre? Eh bien alors, de qui on doit prendre?
Est-ce qu'ils ont pris aux Égyptiens?
Oui, mais non.
Ils ont pris aux Égyptiens.
Ils ont pris aux Égyptiens, mais maintenant il n'y a plus d'Égyptiens dans le quartier. Et si tu me dis qu'ils doivent, de ce qu'ils ont pris aux Égyptiens, donner au Beit HaMikdash, au Mishkan, ça ne s'appelle pas prendre. Si je te demande de m'amener des choses qui sont en ta possession, tu dois prendre ou tu dois donner?
Donner.
Si les Bnei Israël doivent donner Av, Kesef ou Nechoshet qu'ils ont à eux, ça devrait être marqué Veyitnouli. Lo Veyikrouli. Si on demande aux Bnei Israël d'aller prendre, ça veut dire que à qui ils doivent prendre? À ceux qui ne sont pas les Bnei Israël. C'est qui ceux qui ne sont pas les Béné Israël?
À eux-mêmes.
Ben non.
On n'entend pas.
Si, on t'entend, on t'entend, on t'entend. Les amis, si, encore une fois, on fait de la logique, on fait de la logique. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de faire sa cuisine. Effectivement, les gens qui sont en train de préparer le repas, c'est très sympathique. Mais vu que vous ne nous avez pas invité à venir partager votre repas, eh bien, je vous invite à vous mettre en mute, à fermer vos micros. En tout cas, tout ça pour dire la chose suivante, les amis. Alors, j'ai plus personne en caméra, c'est normal. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Bon, l'homme est chané. En tout cas, exactement. Vous avez compris. Si Dieu me dit... Attendez, le Zoom se reconnecte. Vivement que ça s'arrête, ce Zoom. Excusez-moi, les gens sur YouTube, deux petites secondes, le Zoom se reconnecte. Attends, ça vient, ça vient. Allez, hop. Tum, 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 tum. Je devrais prévoir un intermède musical à chaque fois qu'il y a des problèmes de connexion. Ça peut être sympa, ça. Ouais, 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 ouais. Non, non. Alors, qu'est-ce qui se passe, Houston? Ah ah! Bon, ben écoutez, on va continuer sur le YouTube, hein. Edmalasot. En ma la assaute. Attends, ouvert. Je vais juste. Vous savez quoi? Je vais essayer de prendre un autre appareil. Deux petites secondes, ce sont les inconvénients du direct. Oui, messieurs, dames, je reviens tout de suite. Je suis revenu. Est-ce que le Zoom, cette fois, va marcher? Eh bien, non. J'ai bien peur que non. Attends, ça a l'air de... Oui, Monique? Et quoi? C'est de mon côté? Attends, je reviens. Voilà. Vous m'entendez cette fois ou pas? Oh, on est revenu. Yofi.
On en était à prendre et donner.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Alors voilà, on est reparti, c'est reparti. Donc, comme je disais, si on me demande de prendre quelque chose à quelqu'un, c'est que le quelqu'un n'est pas moi. Sinon, ça s'appelle donner. Or ici, nous dit la Torah que Moshe doit dire au Bnei Israël d'aller prendre une terouma de chaque personne qui voudra bien le donner. Ce qui veut dire que si c'est les Bnei Israël qui doivent prendre, eh bien ils doivent prendre à qui tu veux, mais qui n'est pas Bnei Israël. Donc, ça veut dire les nations. D'ailleurs, le Maharal de Prague ira encore plus loin, puisqu'il dira quelle est la suite du verset, c'est quoi cette terouma qu'il faut donner ou prendre, Zahav, Vachesef ou Nechoshet. Il dit le Maharal, c'est quoi Zahav, Kesef ou Nechoshet, l'or, l'argent et le cuivre. Eh bien, quand on regarde le livre de Daniel, on se rendra compte que Zahav, Kesef ou Nechoshet, c'est en rapport avec les différentes nations. Zahav, c'est Babylone. L'or, c'est Babylone. L'argent, c'est la Perse. Et le cuivre, c'est la Grèce. En d'autres termes, les nations doivent participer à la création du Mishkan, à la création du Mikdash. Je rappelle simplement, au cas où vous auriez oublié, que le but du Beit HaMikdash, c'est qu'il beiti beit tefila yikare lechol ha'amim. Le but du jeu, c'est que toutes les nations puissent se retrouver au Beit HaMikdash pour se rattacher à Dieu. Donc, il est évident qu'ils doivent y participer, elles doivent y participer. On remarquera qu'on aura dans le Mishkan, Zahav, Kesef ou Nechoshet. Et comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, d'après le rêve de Nabucodonosor dans le livre de Daniel, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, voit dans son rêve une grande statue, la tête en or, le tronc en argent, les hanches en bronze, enfin en cuivre, et les pieds en argile et en fer. Et il ne comprend pas ce que ça veut dire. Daniel lui répond, eh bien, ça veut dire qu'en fait, la tête, c'est toi, c'est Babylone. L'argent, c'est la royauté qui viendra après toi, la Perse. Les hanches en cuivre, c'est la royauté d'après, la Grèce. Et ensuite, eh bien, vous avez Rome, qui sont l'argile et le fer. Et
on l'argile.
L'argile et le fer. Et on se rendra compte que donc, eh bien, d'après la Torah, tu peux faire participer à la construction du Mishkan Babylone, la Perse et la Grèce. Zahav, Kesef ou Nechoshet.
Et alors, mais, et Rome?
Eh bien, il n'y a pas Rome.
Et Rome?
Ben, il n'y a pas Rome. Lama, il n'y a pas Rome. Eh bien, parce que on peut faire participer les gens qui ont quelque chose à donner. C'est-à-dire, Babylone a apporté quelque chose dans le monde. Qu'est-ce qu'elle a apporté Babylone? Son truc, c'est quoi? Son truc, c'est la malchoute. Nous dit la Torah dans le livre de Bereshit, Vatei Reshit Mamlachto Bavel. Babel, Babylone, est l'une des premières sociétés à royauté, si on veut. Elle a apporté au monde la dimension de malchoute. La Perse, la semaine prochaine, c'est Pourim. On va commencer à rentrer dans l'histoire de Pourim, tout ça. Pourim, quand on regarde le premier chapitre de la Megillah, et bien on se rend bien compte que l'opulence, c'est ce qui détermine la Perse. À Kesef, l'argent, la valeur de l'abondance matérielle. Et donc, c'est ça qui a été donné par la Perse. Ainsi donc, c'est l'argent. Alors que la Grèce, c'est le cuivre. Le cuivre, quand c'est bien frotté, ça brille comme de l'or. Aval zelozav. La sagesse grecque, zelo mamash amalchut. Mais c'est pas mal quand même. Alors que Rome, eh ben, excusez-moi, mais l'Empire romain n'a rien amené au monde. C'est-à-dire que l'Empire romain a pris de chacun des autres et l'a fait en plus grand. Mais ils n'ont rien inventé. Bien sûr qu'il y avait la dimension de royauté chez Rome, mais ils ont pris ça à Babylone, ils l'ont fait en grand. Il y avait la philosophie grecque qu'ils ont fait leur, Nahon, mais ils ont piqué des autres. Qu'est-ce qu'ils ont, oui, fait les Romains? Alors là, on peut leur remercier, ils ont fait les Jeux du cirque. Toda Rabba. Ça, c'était une grande trouvaille. Ainsi, les Romains sont le fer, c'est-à-dire le barzel, l'épée qui vient amoindrir la vie. Ainsi donc, on ne va pas faire participer ça dans la construction du Mishkan. Donc, vous voyez que dans l'idéal de la construction du Mishkan, on doit faire participer les nations. Je dis c'est dans l'idéal. Dans les faits, c'est pas ce qui va se passer. Pas encore, du moins. Au Beit HaMikdash, ça va commencer, puisque Hiram Melech Tzor va participer, va donner des matériaux de construction à Shlomo et va également lui amener de la main-d'œuvre. Et Bezrat Hashem, quand on va construire le troisième Beit HaMikdash, là, je peux t'assurer qu'on aura énormément de dons d'Egoïm pour construire le Beit HaMikdash. Donc, voilà l'idéal du Beit HaMikdash. Un idéal qui doit servir l'humanité. Mais quand on regarde de plus près dans notre Pacha, Parashat Terouma, eh bien, on peut se poser la question, mais alors, il y a quoi dans ce Mishkan? Qu'est-ce qu'on y trouve dans le Mishkan? Eh bien, dans notre Paracha, on va y trouver plusieurs ustensiles. On va y trouver le Mizbeach à Ola, c'est-à-dire l'autel sur lequel on fait les sacrifices. On va y trouver, évidemment, là, Qu'est-ce que tu disais, Manik ?
L'étape de la loi.
Alors, on va y trouver l'arche d'alliance, dans laquelle il y aura l'étape de la loi. On va y trouver la menorah.
Les pains.
Et la table de pain. Voilà. Voilà ce qu'on trouve dans le Mishkan de la paracha de Terouma. On a la structure du Mishkan, ok ? On a le Mizbeach HaOla, Aaron Abrit, Lechem Apanim, Shulchan, ve Menora. Alors, il y a une question ici. Mais pourquoi ce n'est pas les nations qui donnent d'elles-mêmes ? Il faut que ça passe par nous. Ah, elles donnent quand on leur a dit quoi donner. C'est-à-dire que les nations, elles sont prêtes à donner d'elles-mêmes. Mais si on leur laisse faire ce qu'elles veulent, elles peuvent donner tout et n'importe quoi. Elles ont besoin donc d'une hadracha du peuple juif. Qu'est-ce qu'on met dans le Mishkan ? Ok ? Donc, on a ces quatre éléments. Vous remarquerez que dans la paracha de Terouma, par opposition à ce qu'on verra la semaine prochaine, il n'y a pas de Kohanim. On ne nous parle pas de Kohanim. Il n'y a pas de Kohen Gadol non plus. On ne nous parle pas dans la paracha de Terouma ni de Kohen ni de Kohen Gadol. On ne nous donne pas des habits particuliers pour ni les Kohanim ni personne. Dans la paracha de Terouma, on ne nous parle que de Shulchan, Menorah, Mizbeach et Aaron Abrit. Lama. Eh bien, tout simplement parce que dans la paracha de Terouma, on parle de l'idéal du Mishkan, on a dit. Et dans cet idéal, je n'ai pas besoin d'un intermédiaire entre moi et Dieu. Le Kohen, c'est un intermédiaire entre moi et Dieu. J'en ai besoin lorsque je ne suis pas au niveau. Mais dans l'idéal, je devrais pouvoir, moi, être en contact avec Dieu. Il m'a créé. Donc, dans la paracha de Terouma, qui est l'idéal, on ne met aucune barrière. Et on m'explique que le rapport avec Dieu se fait avec quatre dimensions. Mizbeach, Shulchan, Menorah, Ve'aron Abrit. Alors, quelles sont ces quatre dimensions de relation avec le Créateur ? Alors, le Mizbeach, vous aurez compris, le Mizbeach HaOla, c'est là où il y a les korbanot. Tov, mais c'est Bergamo. Mais ça sert à quoi, les korbanot ? Eh bien, les korbanot, ça sert à une chose très simple. Ça sert
s'approcher.
À relier, exactement comme tu dis, s'approcher. Korban, ça vient du mot kirouv.
Karov.
Leit karev. Donc, les korbanot servent à me rapprocher de Dieu. Vous allez me dire comment ? Parce que je sacrifie une vache, alors je me rapproche de Dieu ? Eh bien, rappelez-vous que d'après la halakha, lorsque j'emmène un korban au Beth Amikdash, je dois lismoch et yadai alav. Je dois poser mes mains sur le korban. De toutes mes forces. Comme si je lui transmettais mon moi. Et Rashi nous dira dans le livre de Vaïkra que c'est pour me dire que c'est ce qui aurait dû m'arriver à moi. C'est ce qui aurait dû m'arriver à moi, mais finalement, non. Pourquoi non ? Eh bien, parce que l'homme doit être conscient, grâce au Mizbeach HaOla, qu'il est formé de deux dimensions. L'homme, eh bien, il a une partie biologique et il y a également une neshama. À partir du moment où j'ai accepté de m'en remettre complètement à Dieu, alors la neshama, a été mis sur le Mizbeach. C'est ce que Yitzhak Avinu avait fait dans la Hakeda. Il a accepté de se faire sacrifier. Ah, si tu as mis ta volonté sur le Mizbeach, alors la partie biologique, on peut prendre une vache pour te remplacer. En d'autres termes, le Korban vient rattacher, non seulement moi, mais en fait toute la création des Korbanot, il y en aura du règne animal, il y en aura du règne végétal, et on va également faire des Nesachim sur le Mizbeach, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'eau également sur le Mizbeach. Rajoute à ça que Al-Kol Korbanecha Takriv Melach, qu'on met également du sel sur les Korbanot. En d'autres termes, tous les éléments du règne de ce monde, qu'ils soient minéral, végétal ou animal, sont mis sur le Mizbeach. En d'autres termes, Mizbeach HaOla, c'est pour rattacher la création au Créateur. Après, nous avons la shulchan. Shulchan lechem apanim. Ah, les amis, la shulchan, ça c'est quelque chose. Shulchan lechem apanim, c'est mekor ha-shefa ba'olam. C'est la base, l'origine, la source de l'abondance dans ce monde. D'ailleurs, attends, juste une question ici. Pour ce qui est des Arabes, ils y sont déjà. Ah, tu parles sur le mont du Temple. Oui, bien sûr qu'ils y sont déjà. Mais pour l'instant, ils servent tout simplement de babysitter. Ils servent de babysitter au Arabaït le temps qu'on décide de enfin pouvoir faire ce qu'on a à faire. Alors, ils sont un babysitter, mais très mauvais, hein, faut bien le dire. C'est-à-dire que c'est un babysitter qui, comme on dit, ça garde les meubles, mais franchement, tu retrouves pas le mobilier dans le même état que tu leur as donné. Zenachon. Mais pour l'instant, ça va. Mais ils ont absolument pas ni la prétention, ni la réalité de savoir ce qu'il faut faire avec cet endroit-là. C'est-à-dire, donc pour l'instant, ils y sont. Ils ont un mérite, les musulmans, qu'on peut pas leur enlever. Ils ont la Brit Mila. Et donc, fort de leur Brit Mila, ils ont un mérite qui leur permet d'être à cet endroit-là. Jusqu'au moment où on se contentera plus simplement de dire « Har Habayit Beyadenu », le mont du Temple est entre nos mains, mais « Behemet », on le prendra entre nos mains. C'est-à-dire, mais ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous. Pour l'instant, je vous tiens à vous rappeler, pour ceux qui n'y auraient pas encore été, que sur le mont du Temple, il y a la police qui fait régner la loi sur le mont du Temple. La police, sur sa manche, elle a un drapeau. C'est un drapeau d'Israël. La police, c'est la police israélienne. C'est-à-dire que le mont du Temple est une zone sous contrôle israélienne. C'est juste que nous décidons de faire n'importe quoi. Ben, un jour, Bezrat Hashem, on décidera d'arrêter de faire n'importe quoi. Ça dépend de nous. Quoi qu'il en soit, Ashulchan, c'est l'origine de la Shefa, l'origine de l'abondance. D'ailleurs, lorsque on parle de l'abondance, eh bien, il y a un verset de Tehillim que nous connaissons très bien, qui nous dit que Akadosh Baruch Hu potach et yadecha u masbia lechol chai ratzon. Nos frères séfarades ont l'habitude, quand ils disent cette phrase-là, de faire une gestuelle toute particulière avec les mains. Du style, un truc qui ressemble à ça. Bon, j'exagère évidemment. Ils regardent leurs mains et ensuite, bisous. C'est très bien, mais il ne faudrait pas oublier quel était le minag à l'origine. Le minag, ce n'est pas de mettre ses mains comme ça, mais c'était bel et bien de mettre ses mains comme ça, en mode Playmobil. Et pourquoi mettre les mains en mode Playmobil ? Parce que ça ressemble à une main. Et c'est parce que cette forme-là, c'était la forme qu'avaient les chalotes sur la shulchan lechem. Non, ce n'était pas des chalotes tressées, désolé, pour tous les tresseuses de chalotes. Les chalotes du Beth Amikdash étaient en mode comme ça, pour représenter la main. D'ailleurs, vous remarquerez, si vous avez déjà été au Machon Amikdash et que vous avez vu la shulchan lechem apanim, vous remarquerez que la shulchan, elle est faite de manière très intéressante. Il y a deux étagères. Il y a deux étagères qui sont subdivisées chacune en cinq étages. Et pour tenir la challah, dans chacun des étages, il y a trois tiges en or qui servent de plateau. Sauf le dernier étage qui n'a que deux tiges. Eh bien, en fait, c'est les deux mains, deux étagères qui sont deux mains. Il y a cinq étages parce que nous avons cinq doigts dans chaque main. Il y a trois tiges, car dans chaque doigt, nous avons trois phalanges, sauf la dernière étage qui n'a que deux tiges pour le pouce qui n'a que deux phalanges. En d'autres termes, quand tu viens et que tu mets potar et tiadera, tu te rappelles que tout ce que tu vas faire avec tes mains pour sortir ta parnassa, eh bien, prend son origine dans la shulchan lechem apanim. La shulchan se trouve sur le côté nord du Mishkan. C'est pourquoi le Talmud dira « Arotze le'ashir yatspin » Celui qui veut être riche, qu'il aille au nord. Ça ne veut pas dire qu'il doit aller au pôle nord. Ça veut dire qu'il fait référence au côté nord du Beit HaMikdash, là où il y avait Shulchan Nechemia Panim, la source de l'abondance dans le monde. Mais l'abondance n'est pas que matérielle. L'abondance, elle est également spirituelle. Spirituelle, je n'entends pas par là mystique. Spirituelle dans le sens anglais, spirit, intellectuel. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la menorah. La menorah, c'est la chokhmah. Le Midrash nous dira qu'il y a 7 branches à la menorah, qu'il y en a 3 qui pointent d'un côté, 3 qui pointent de l'autre vers la bougie du centre. Comme pour dire que toutes les sciences du monde pointent vers Akadosh Baruch Hu. C'est un mot. La menorah, c'est la chokhmah. Ainsi, nos sages diront dans la même phrase que j'ai cité tout à l'heure, « Ve'arotze l'achkim yadrim » et celui qui veut être sage, qu'il aille au sud, parce que la menorah était sur le côté sud du Beth Amikdash. Il ne s'agit pas d'aller à l'équateur. Il s'agit de se référer au Beth Amikdash. La menorah, eh bien, son rôle, c'est de nous apporter non pas l'abondance matérielle, mais l'abondance spirituelle, intellectuelle, de la compréhension du monde. Zéa menorah. D'ailleurs, cette menorah, eh bien, elle a quelque chose en plus. Cette menorah, elle est également le témoignage que Dieu a choisi le peuple juif. Il y avait dans la menorah un miracle, pas seulement à Hanouka, mais un miracle qui existait depuis Moshe jusqu'à la mort de Shimon HaTzadik. Quel était ce miracle ? Eh bien, que la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. Nous dit la Gemara dans le traité de Shabbat, et doute, c'était un témoignage pour le monde entier que la présence divine régnait au sein du peuple juif. Donc, on a dit, Amisbeach, c'est pour me rattacher et rattacher toute la création à Dieu. La Shulchan, c'est pour avoir l'abondance matérielle. Amenorah, l'abondance spirituelle. Et il y a également derrière le parochet, qui est d'ailleurs qui n'est pas mentionné dans notre paracha, puisqu'on a dit dans la paracha de Terouma, il n'y a pas d'écran entre moi et Dieu, il y a Aaron Abrit. Aaron Abrit, Rabotai, l'arche d'alliance. Alors l'arche d'alliance, elle est où ? Là, maintenant, là, au moment où on parle, 6 Adar, 5781, elle est où ? L'Arche d'Alliance.
Demande à Indiana Jones.
Alors justement, Machloquette entre Indiana Jones et Yoshiyahu Melech Yehuda. Parce que d'après Indy, Indiana Jones, eh bien l'Arche d'Alliance, elle a été retrouvée. Et elle est quelque part, d'après Indiana Jones, zone 4, elle serait quelque part dans un entrepôt dans la zone 51. Oui, messieurs, dames, l'Arche d'Alliance à côté de l'extraterrestre de Roswell, bien sûr. Bon, ça c'est si on suit la vie de Indy. Si on suit la vie du Tanakh, dans le Sefer Divrei Hayamim Bet, au chapitre 24, 24, je crois, eh bien, le roi Yoshiyahu, en l'an moins 630-631, a caché l'Arche d'Alliance quelque part dans le mont du Temple. Elle, finalement, il n'a pas réussi. Mais elle est toujours là-bas. À quoi sert l'Arche d'Alliance ? L'Arche d'Alliance, eh bien, elle nous apprend ce qu'est cette dimension incroyable qui s'appelle Kodesh à Kodeshim. Vous savez que l'Arche d'Alliance se trouve dans cet endroit qui s'appelle Kodesh à Kodeshim. Dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan également, il a plusieurs dimensions de sainteté. Le top du top, c'est le Kodesh à Kodeshim. C'est là où il y a l'Arche d'Alliance. Sauf qu'il va falloir se comprendre un petit peu. L'Arche d'Alliance, c'est une boîte dans laquelle il y a le Sefer HaTorah de Moshe, les Luchot Abrit, les tables de la loi, les brisées et les pas brisées. Et c'est une boîte sur laquelle il y a également des statues en or représentant un jeune garçon et une jeune fille enlacés tendrement. Akruvim. Vous serez d'accord avec moi, j'imagine, de dire que Sefer Torah, Luchot Abrit, c'est Kodesh. D'un autre côté, des statues en or représentant un garçon et une fille, Zelo Kodesh, Zechol. Ainsi, vous comprenez qu'est-ce que c'est le Kodesh à Kodashim. Le Kodesh à Kodashim, c'est l'union du Kodesh et du Chol. Eh oui. C'est la raison pour laquelle des livres de Torah qui s'appellent Kadosh, Kodesh, on en a plein. Zohar Kadosh, Aura Chaim Kadosh, Ashla Kadosh, Al Shech Kadosh, Orot Kodesh. On a plein de livres qui s'appellent comme ça. Mais des livres qui ont été appelés Kodesh Kodashim, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 3. Dans toute la bibliothèque juive, depuis le Tanakh jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 3 livres qui ont été appelés Kodesh HaKodeshim par d'autres rabbins. Le premier d'entre eux, c'est Shir HaShirim, qui a été appelé Kodesh HaKodeshim par Rabbi Akiva. Ensuite, le deuxième, c'est le livre du Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi, qui a été appelé Kodesh HaKodeshim par Baal Ksot HaChoshen, par le Gaon de Vilna. Et le dernier, c'est le livre Orot du Rav Kook, qui a été appelé Kodesh HaKodeshim par son fils, le Rav Tzvi Yehuda. Et ne me dites pas que le Rav Tzvi Yehuda est parti pris. Parce que il y a un autre livre de son père qu'il a appelé Orot HaKodesh. Et quand on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que Orot HaKodesh, vous l'avez appelé Orot HaKodesh, et Orot, vous avez appelé Kodesh Kodashim? Il a répondu, parce que Orot HaKodesh, c'est Kodesh, et Orot, c'est Kodesh Kodashim. Donc, c'est-à-dire qu'il sait faire la différence entre les deux. Comme on a dit, Kodesh HaKodashim, c'est là où il y a union du Kodesh et du Chol. Le livre de Shir HaShirim raconte, eh bien, une relation d'amour entre un homme et sa femme. L'amour entre un homme et sa femme, c'est Kodesh. Ah, mais c'est Gam Chol. Donc, c'est Kodesh Kodashim. Sefer HaKuzari nous raconte comment Dieu se dévoile dans l'histoire. Comment le Kodesh se dévoile dans l'histoire Chol. Et le livre de Orot nous explique comment le sionisme laïque, Chol, réalise la promesse des prophètes Kodesh. En d'autres termes, voilà la quatrième dimension du Mishkan de Parashat Terouma. Kodesh à Kodashim. L'union du Kodesh et du Chol. Alors il manque un événement, il manque un élément, Sricha. Et je ne vais pas le développer parce qu'on le développera dès qu'on y arrivera, mais il faut savoir quand même qu'il y a un autre élément dans le Mishkan. Quel est cet autre élément dans le Mishkan? Eh bien, c'est Mizbeach HaZahav. Il y a un autre outil qui s'appelle l'autel en or, qui est appelé également Mizbeach HaKetoret. C'est là où on mettait l'encens. Aha. Mais maintenant que j'ai dit ça, je voudrais qu'on se représente 2 secondes le Mishkan. Il y a, on va dire là, le Kodesh HaKodashim avec le Aaron, séparé du Parochet, comme pour dire que le Aaron Abrit, il est dans un endroit fermé. En dessous, juste en dessous du Aaron, on peut trouver donc le Mizbeach HaZahav, Mizbeach HaKetoret, au milieu. D'un côté, de l'autre, eh bien, on trouvera la Menorah et la Shulchan. Et en dessous, on trouvera Mizbeach HaOla. Eh bien, les amis, nous dit le début de la paracha, comment est-ce qu'on va réussir à construire le Mishkan? Nous dit la Torah, Kechol asher ani mare otra et tavnit ha Mishkan ve tavnit kol kelav ve chen ta'asu. Comme si Dieu y montrait Moshe à Betzalel, à ceux qui vont construire le Mishkan, et en regardant Moshe, ils vont savoir comment faire. Eh bien oui, car le Mishkan, Eh bien, pour le comprendre, on va prendre exemple sur celui qui, pour l'instant, est notre relation avec Dieu, Moshe. Un homme, il a un cerveau, les yeux, le nez, la bouche et le ventre. Kodesh HaKodashim, Aaron, Amenorah, Mizbeach HaKetoret, où on va sentir les encens, Shulchan Lechem HaPanim, on va manger le pain, Ve'a Mizbeach HaOla, qui est tous les kishkes qu'on va mettre sur le Mizbeach. En d'autres termes, le Mishkan, Ze Mamash Olam Katan, Ve'a Adam ou Olam Gadol. Ainsi, lorsque l'homme y rentre dans le Mishkan, eh bien, il peut enfin avoir véritablement le lien idéal entre le Créateur et la créature. Mais comme il y a une différence entre l'idéal et la réalité, eh bien, il nous faudra la parasha de la semaine prochaine pour voir comment est-ce qu'on tombe de l'idéal à la réalité. Mais ça, ça sera la semaine prochaine. À bientôt, les amis.
Merci.
Quel tour? Oui, dis-moi.
Et
oui.
Tu as cité les trois livres.